Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour sa seconde et dernière émission du mois de mai, en attendant bien sûr celle du mois de juin, qui va prendre la suite de notre série d'émissions pour la promotion et la défense des droits humains, comme on le fait depuis une dizaine d'années maintenant sur l'antenne de Principe Actif. Donc, pour l'animer ce soir avec moi, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a quelqu'un qui n'est pas venu depuis quelques émissions à l'antenne, mais qu'on va retrouver ce soir, qui est Mina.
Oui, bonsoir, de passage à Évreux.
De passage à Évreux. Mina, la grande voyageuse.
Je suis de retour ce soir.
C'est ça. Donc, voilà, encore une fois, beaucoup de sujets. Hein, donc, restez à l'antenne à nous écouter jusqu'à 20h. Et après, pour le laboratoire, bien sûr, on va vous parler de quelques mots de la situation en Nouvelle-Calédonie. On va vous parler de la situation aussi dramatique entre Israël et la Palestine et la bande de Gaza. On va vous parler de plein d'autres choses qu'on a notées avant le début de l'émission. Voilà, et de rubriques culturelles aussi que va vous proposer Mina tout à l'heure. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, je voulais revenir. On a longuement parlé la fois dernière d'une projection débat qu'on a organisée au cinéma Pathé jeudi dernier sur un film qui s'appelle Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est un film qui traite. C'est un film de cinéma, mais qui reprend des éléments réels d'affaires qui ont traité de violences policières et des difficultés qu'ont les familles victimes de ces violences policières pour obtenir justice. C'est un film qui n'était jamais passé à Évreux, qui a été malmené par une certaine presse d'extrême droite lorsqu'il est sorti avec des propos injurieux, racistes, enfin, etc., vis-à-vis principalement de l'actrice principale du film, Camélia Jordana. Et donc, nous, on l'a passé donc jeudi dernier à Évreux. Donc, c'était le film vaut le coup d'être vu.
C'était un super beau film.
Voilà. Et extrêmement bien fait. Et on n'a qu'un regret qui est quand même important, c'est qu'on était malheureusement très peu dans la salle de cinéma, malgré les nombreux mails envoyés, les informations sur les réseaux sociaux, sur le site du cinéma, etc., etc., et même dans la presse locale. Mais malgré tout, il y a très peu de gens qui ont pris la peine de se déplacer pour venir voir le film et participer après au débat qu'on a animé. Donc c'est dommage quand même, parce que bon, l'actualité des droits humains, on vous le dit depuis pas mal d'émissions, c'est pas dans un climat très serein et très positif que les choses évoluent. Au niveau de l'environnement, aussi bien français qu'international. Donc les droits humains, c'est quelque chose de fondamental si on ne veut pas que la société devienne un jour ou l'autre particulièrement « invivable », entre guillemets. Donc voilà, c'est important de continuer à agir pour les droits humains. Et quand on organise des soirées comme ça pour discuter avec les gens et pour informer, on aime bien que les gens se déplacent. Donc c'est bien de nous écouter à la radio, c'est bien d'être d'accord avec nous. Et on sait que vous êtes un certain nombre à le faire. Mais c'est bien aussi de venir et de se bouger un peu. Voilà. Comme disait quelqu'un qui n'est plus dans la radio, mais qui a été pendant longtemps permanent ici à Principe Actif, comment passe-t-on du stade du révolté du canapé au stade de militant ? C'est bien de ne pas rester au stade de révolté dans le canapé. Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette soirée. Encore une fois, on remercie malgré tout, bien sûr, le cinéma qui nous a organisé cette soirée sans aucun problème et qui nous a très bien accueillis, puisqu'on tenait aussi un stand d'information dans le hall, qui nous a très bien accueillis en espérant refaire d'autres avec eux. Mais on espère aussi que les prochaines fois, avec d'autres films, eh bien, vous serez un peu plus nombreux à venir au cinéma. Voilà. Et donc, on va continuer l'actualité internationale et nationale. C'est aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Oui,
Donc, je vais vous parler de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc, les autorités françaises doivent respecter les droits du peuple autochtone kanak. Depuis que le Parlement français a adopté un projet de loi modifiant les règles électorales dans le territoire, de violents troubles secouent le territoire non autonome français de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte de violence, nous alertons sur l'importance de respecter les droits du peuple kanak. L'Assemblée nationale française a adopté cette semaine un projet de loi qui étend le droit de vote aux habitants récents de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, majoritairement des ressortissants français. Cette décision risque de priver encore davantage le peuple autochtone kanak de ses droits, notamment au niveau de la représentation politique locale et dans les futures discussions sur la décolonisation. Cette modification constitutionnelle est contestée et de violents troubles ont éclaté dans la capitale, Nouméa, faisant au moins 5 morts jusqu'à présent, 3 Kanaks autochtones et 2 policiers. Le président français Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence dans l'archipel mercredi 15 mai. Le gouvernement français, qui est la puissance administrante en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, a annoncé l'interdiction d'utiliser l'application de réseau social TikTok sur le territoire, ainsi que le déploiement de centaines de renforts de police. L'armée française a aussi été déployée pour sécuriser les ports et l'aéroport de l'archipel. Les autorités auraient assigné à résidence les manifestants qui seraient à l'origine des violences et procédé à plus de 200 arrestations. Donc l'état d'urgence décrété par le gouvernement français et le déploiement de l'armée française, associé à l'interdiction de l'application du réseau social TikTok, ne doivent pas être utilisés à mauvais escient pour restreindre les droits fondamentaux de la population. Donc ça, c'est Kate Chudze, chercheuse sur le Pacifique au sein d'Amnesty International, qui a fait cette déclaration.
Comment elle s'appelle ?
Alors, je vous le redis, mais je ne vous garantis pas. Kate Schwetz. Voilà, ça s'écrit comme ça.
Bon.
Des années de tension, donc les émeutes actuelles font suite à des années de tension liées à l'incapacité présumée du gouvernement français de protéger les droits de la population autochtone kanak et à l'absence de clarté quant à la voie à suivre vers la décolonisation. En 1998, les autorités françaises et le gouvernement local ont conclu l'accord de Nouméa, qui comportait des engagements en faveur d'une transition vers une plus grande indépendance et autonomie, tout en respectant les droits du peuple kanak. 3 référendums ont été organisés sur la question de l'indépendance depuis 2018, et le dernier en date, en 2021, a été boycotté par les électeurs et électrices autochtones et largement critiqué en raison de l'impact disproportionné de la pandémie sur les kanaks. Au terme de l'accord de Nouméa, jusqu'à ce que le vote permette la pleine souveraineté, l'accord restera en vigueur à son dernier stade d'évolution et cette irréversibilité sera constitutionnellement garantie. Donc ces dispositions protègent la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle du territoire néo-calédonien, les avancées en lien avec les droits des peuples autochtones, ainsi que la question persistante de l'autodétermination. En 2021, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones notait que les Kanaks sont sous-représentés dans la vie politique et dans les fonctions de pouvoir, et qu'ils ont un accès moindre aux droits économiques, sociaux et culturels que les autres habitants du pays. Ces inégalités raciales notables persiste en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, malgré certaines initiatives visant à y remédier. Dans une résolution en 2023, l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la base d'un rapport de la Commission de l'ONU, des questions politiques spéciales et de la décolonisation, demandait de nouveau à la puissance administrante et à toutes les parties concernées en Nouvelle-Calédonie de veiller à ce que les prochaines étapes du processus d'autodétermination se déroulent de manière pacifique, équitable, juste et transparente, conformément à l'accord de Nouméa. Vous avez bien compris que l'administration, la puissance administrante, c'est l'État français. Ainsi, la violence très inquiétante et la réponse des autorités françaises doivent être comprises sous l'angle d'un processus de décolonisation à l'arrêt, de l'inégalité raciale et des demandes d'autodétermination exprimées pacifiquement et de longue date par le peuple autochtone kanak. Dans ce qui est sans aucun doute une situation compliquée pour la police, qui déplore hélas plusieurs décès, il est impératif que les policiers et les gendarmes français ne recourent à la force que dans la mesure où elle est raisonnablement nécessaire et qu'ils accordent la priorité à la protection du droit à la vie. À moins qu'il n'existe des informations fiables démontrant le rôle de TikTok dans l'incitation à la violence, ne pouvant être contenue par des moyens plus réduits, interdire l'application apparaît clairement disproportionné et constitue probablement une violation du droit à la liberté d'expression. En outre, cela risque d'établir un dangereux précédent qui pourrait aisément servir d'exemple à la France et à d'autres gouvernements dans le monde pour justifier des coupures en réponse à des contestations publiques. Donc les autorités françaises doivent respecter les droits du peuple autochtone kanak et le droit de s'exprimer et de se réunir pacifiquement, sans discrimination. Ceux qui réclament l'indépendance doivent être en mesure d'exprimer leur opinion de manière pacifique. Donc voilà, je ne sais pas si Didier, si tu avais des choses à dire autour. Encore une fois, on ne justifie pas le recours, enfin, les violences qui peuvent avoir lieu dans ce genre de situation. On ne les cautionne pas. On ne cautionne pas les destructions des écoles, des hôpitaux, des choses comme ça. Mais il faut savoir que c'est quand même un climat tendu depuis des années et des années et qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est originaire de l'île, les Kanaks, qui sont sous-représentés et au bout d'un moment, la tension, elle monte et ça finit par exploser.
Oui, tout à fait. Bah, c'est lié à tous les phénomènes aussi qui sont dus au phénomène de décolonisation. Et c'est rare que les processus de décolonisation se passent bien. Et donc là, c'est encore le cas, effectivement, puisque la Nouvelle-Calédonie est une colonie française depuis le milieu du 19e siècle ou du 20e siècle, dans le 19e siècle, si je ne fais pas d'erreur. Donc effectivement, il y avait un processus qui avait été conclu depuis une
quarantaine
d'années.
C'est une des colonies les plus récentes quand même. Hein.
Ouais. Oui.
C'est pas si ancien que ça, la Nouvelle-Calédonie devenue française.
Je crois que c'est le 19e siècle, mais bon, enfin, faudrait vérifier. Je vous dis ça de mémoire. Et donc, le processus avait été signé par les autorités françaises et les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, enfin, etc., avec plusieurs référendums, etc. Et ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est que le gouvernement français revienne sur des termes de cet accord et considère qu'il n'avait plus à les respecter aussi de fait. Donc, ça a mis ce qu'on peut appeler de l'huile sur le feu. Encore une fois, comme disait Claire Lise, au niveau d'Amnesty, on n'est jamais d'accord avec aucun phénomène de violence, quel qu'il soit, et de quel côté qu'il se situe. Donc on ne soutient absolument pas le fait de passer aux actes violents, d'un côté comme de l'autre. Mais il est important aussi de respecter les droits des populations autochtones à décider de leur propre sort et de leur avenir. Voilà.
Oui. Ensuite...
Ensuite, c'est Lida qui reprend le conducteur.
Nous enchaînons
avec Didier.
Avec Didier, merci Claire-Lise pour la Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, nous allons passer à Gaza-Israël.
C'est ça.
On reste dans l'actualité chaude.
Donc, alors, je vais vous lire un petit communiqué très rapide, effectivement, d'Amnesty suite aux dernières informations concernant le conflit entre Gaza et Israël et le drame qui s'y passe. Hein, et on vous en a déjà parlé à plusieurs fois dans nos émissions récentes. Réécoutez les podcasts. Donc, Amnesty précise qu'à la suite des dernières actualités, Amnesty International tient à exprimer sa position sur la situation à Gaza, en Israël et en Cisjordanie, ainsi que vis-à-vis des interdictions de manifester dans les universités en France. Le 20 mai dernier, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale formulait une demande de mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense, ainsi que de trois dirigeants du Hamas. Parmi les charges retenues, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Israël et dans l'État de Palestine, et particulièrement dans la bande de Gaza occupée, à partir au moins du 7 octobre dernier, 2023. En réaction à cette demande, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré « Personne n'est au-dessus du droit international. Aucun leader de groupe armé, aucun responsable de gouvernement, élu ou non, aucun chef militaire. Quelle que soit la cause défendue, nul n'est au-dessus des lois. La demande de mandat d'arrêt formulée par le procureur de la CPI dans la situation dans l'État de Palestine est aussi l'occasion, qui n'a que trop tardé, de mettre un terme au cycle d'impunité qui dure depuis des décennies en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, et de rétablir la crédibilité du système de justice internationale dans son ensemble. Tous les États doivent respecter la légitimité de la Cour et s'abstenir de toute tentative visant à intimider ou faire pression sur celle-ci, afin de permettre aux juges de faire leur travail en toute indépendance et impartialité. Voilà, ça c'était sur la décision de la CPI de poursuivre, donc de demander les poursuites contre Benjamin Netanyahou et les chefs du Hamas pour être poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et par rapport effectivement au mouvement de soutien et de protestation qui se passe dans les universités, Amnesty précise, depuis plusieurs semaines, des manifestants en faveur des droits des Palestiniens ont lieu dans de nombreux... Des manifestations, par contre, en faveur des droits des Palestiniens ont lieu dans de nombreuses universités dans le monde, notamment en France. Amnesty International tient à rappeler que le droit de manifester, c'est-à-dire la liberté de se réunir de manière pacifique et la liberté de s'exprimer, doit être garanti quel que soit le lieu, la forme, le mode d'expression ou la durée choisie par les manifestants tant qu'il n'y a pas de violence générale ou d'appel à la violence, à la discrimination ou à la haine. Ce d'autant plus dans un climat appartenant au patrimoine d'État, dans un espace, appartenant au patrimoine d'État, et lorsque les messages des manifestants sont en lieu direct avec le lieu choisi, et même si ces manifestations sont susceptibles de heurter ou de mécontenter des personnes hostiles aux idées ou revendications qu'elles peuvent promouvoir. Voilà. Donc je crois que c'était important de rappeler très brièvement ces deux points-là. Nul dirigeant n'est au-dessus des lois au niveau du droit international, et le droit de manifester pacifiquement est un droit inaliénable. Voilà. Et donc, deuxième petite information avant la pause musicale. Je vous ai déjà parlé aussi dans les précédentes émissions de la situation de quelqu'un dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Julian Assange, qui est le fondateur d'un média d'information au début des années 2000 qui s'appelle Wikileaks, lequel média a publié toute une série de mails et de textes émanant des services secrets et des services de l'armée américaine, et qui a permis effectivement de mettre, ces publications ont permis de mettre le doigt sur des crimes de guerre commis par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Donc, bien évidemment, ça a beaucoup déplu aux différents gouvernements des États-Unis, aux différents présidents qui se sont succédés depuis 20 ans. Et Julian Assange est sous le coup d'une menace d'arrestation et d'expulsion aux États-Unis pour être jugé, alors qu'il n'a fait qu'un travail de journaliste. Et s'il est jugé, il risque 175 ans de prison. C'est un chiffre absurde. Et donc voilà, donc Amnesty effectivement le défend depuis le début parce qu'il n'a fait que son travail de journaliste. Il est actuellement en prison malheureusement, mais en Angleterre et pas aux États-Unis, et il est sous la menace d'une expulsion vers les États-Unis. Donc il a fait appel de cette dernière décision, et pour l'instant effectivement la entre guillemets relative bonne nouvelle que nous avons, c'est que l'appel qu'a fait Julian Assange et ses avocats pour contester l'avis d'expulsion vers les États-Unis a été accepté par la justice britannique. Donc pour l'instant, il reste en prison. Il n'est pas encore expulsable vers les États-Unis. Bien évidemment, on continuera à suivre l'affaire. Et bien évidemment, Amnesty International réclame purement et simplement sa libération. Julian Assange et son organisme Wikileaks n'ont commis absolument aucun délit. Ils n'ont fait qu'un travail de journaliste, même si ça déplaît aux autorités des États-Unis. Voilà. Donc c'était pour faire le point par rapport à ça. Donc c'est une semi-bonne nouvelle. Et on continuera effectivement à suivre les informations concernant Julian Assange. On vous passe tout de suite la première pause musicale et on se retrouve juste après. Your name is Big Brother. You say that you are watching me on the telly. See me go nowhere. Your name is Big Brother.
say that you're tired of me protesting. Children dying every day. My name is nobody, but I can't wait to see your face inside my door. Oh. Your name is Big Brother. You say that you got me all in your notebook, writing it down every day. Your name is I'll see
your name
you.
Is I'll see you.
I'll change if you vote me in as a president of your soul. I live in the ghetto. You just come to visit me round election time. Hi. My name is Secluded. We live in a house the size of a matchbox. Roaches live with us wall to wall. You've killed all our leaders. I don't even have to do nothing to you. You cause your own country to fall.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission, pour la défense et la promotion des droits humains. On vient d'écouter un morceau, mais c'est Mina qui va vous l'annoncer, c'est elle qui l'a choisi.
Oui, c'est Big Brother, pour ce qu'on reconnut, de Stevie Wonder. Et Didier m'a fait une petite... Moi, je l'ai mis avant les élections européennes, juste une petite piqûre de rappel pour vous donner, avec ma rubrique culturelle, d'autres courants de pensée, parce qu'en ce moment, on en voit plein. On en entend plein. Et Didier, en se renseignant sur YouTube, en préparant l'émission, m'a dit que ça faisait référence à Big Brother de George Orwell.
C'est ça.
Voilà.
Du roman 1984.
Donc on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Alors je vais commencer.
Continuez à nous ambiancer.
Qu'est-ce que le déracinement ? Demain, votre pays est en guerre. Vous n'êtes plus protégé. Vous n'avez aucun moyen de vous exprimer, vous n'êtes pas libre, vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir. Et vous arrivez en France, ou des fois vous restez dans votre pays. Et voilà, maintenant, on va commencer par un roman. Tout ce dont je vais vous parler ce soir, ça va parler de l'oppression et de comment rester en vie.
Eh bien, tu nous fais une introduction un peu dramatique, Mina.
Non, j'essaye. Ouais, j'essaye de mettre du corps à mes présentations.
C'est ça.
T'as vu que j'ai fait un effort.
Vas-y, allez, résiste. Vas-y.
Allez, je commence par un documentaire aux éditions Flammarion de Omar Youssef Souleymane, « Être français ». Il est sorti en 2023. Il vit une nouvelle naissance. J'ai une nouvelle mère. la France. Comment ne pas considérer ainsi la terre qui m'a protégée, qui m'a offert la liberté de m'exprimer, qui m'a sauvée de la tyrannie et qui m'a donné ce cadeau, la citoyenneté. Du fait de la situation sanitaire, donc en 2020, la cérémonie prévue à l'occasion de la remise de la carte d'identité a été annulée. Qu'importe, j'ai fait ma propre cérémonie avec mes amis. Certains sont nés ici, d'autres ailleurs. Nous sommes tous allés manger un couscous, le plat préféré des Français. Nous avons trinqué avec du vin italien et écouté Rachid, Tahar et Barbara. Voilà la France que j'aime. Dans ce récit à la fois politique et poétique, Omar Youssef Souleyman, arrivé de Syrie en 2012 et citoyen français depuis 2022, revient sur son parcours semé d'embûches et de solitude tout en racontant son attachement charnel et littéraire pour son nouveau pays. Je fais une petite pause, j'ai un problème de micro, je ne vois rien. Je suis, comment on dit, quand je vois de près et de loin là. Comment
bon,
ça s'appelle ?
Continue.
Je suis vieille. Donc, né en 1987 près de Damas, Omar Youssef Souleyman est journaliste, encore un, et poète. Il a déjà publié chez Flammarion « Le petit terroriste »,« Le dernier Syrien » et « Une chambre en exil ». Donc voilà, un documentaire à lire. Et je vais vous lire juste le prologue qui va vous en dire long sur, effectivement, « Voilà la France que j'aime », mais qu'est-ce que c'est de partir de chez soi. Une autre France. La préfecture du 93 est le premier coin de France que j'ai visité. Réfugié politique syrien, vivant dans l'Hexagone, j'en ignore la langue. Le système et le néant m'encerclent. Mon regard passe sur des centaines de demandeurs d'asile qui font la queue devant la porte principale. La ville est étouffée par des nuages gris. J'ai l'impression que le ciel est trop bas et que je suis suspendue entre lui et la terre. En un mot, je ne suis nulle part. Un pont en fer, énorme, inutile, se dresse au-dessus d'une rue proche. Il est 7h du matin, j'ai dû venir tôt pour m'assurer une place. Le froid attaque les os. Pourtant, on est en mars. Une grande différence de température sépare le Proche-Orient de Paris. De toute évidence, je ne suis pas assez couvert. Peut-être parce que j'éprouve un froid différent dans le cœur, celui du déracinement. Au loin, parmi les bâtiments métalliques, une dame dans une robe bordeaux tient une baguette dans une main, un livre dans l'autre. Elle papote une quinzaine de minutes avec le boulanger, puis se dirige lentement vers la place de la préfecture. Une image qui détonne dans la foule de ceux qui se précipitent vers le métro pour rattraper leur vie. La dame me regarde, elle me sourit. La sympathie puis les larmes emplissent ses yeux. Très vite, elle reprend son chemin. En attendant mon tour à l'intérieur de la préfecture, ce n'est pour moi ni la France ni la Syrie, mais une simple frontière entre mon pays de départ et celui qui m'accueille. Il me semble alors que je ne suis qu'un numéro, comme celui qui s'affiche à l'écran. Mais un nouveau sentiment m'envahit. La curiosité, l'envie de découvrir. Je suis convaincue qu'autre chose existe en dehors de mon quotidien, déchiré entre ce lieu, la CAF, la sécurité sociale et la banlieue parisienne déprimante. Ce n'est pas la France à laquelle je m'attendais, celle de l'amour, du cinéma, de la littérature et de la musique. Voilà, le petit prologue.
Et donc, on peut l'emprunter à la bibliothèque toujours de la Madeleine,
toujours
par exemple.
Toujours dans votre meilleur réseau d'Evreux. Non, celui-là, il vient de naître, oui, de la Madeleine, t'as raison.
Ah bah, voilà.
Pour l'installer sur ma carte. Tu connais bien tes couleurs, alors ?
Oui.
Ah, c'est bien. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le lire. Et maintenant, une autre expérience de migration. Là, lui, je vous en ai déjà parlé les dernières années. Manan Eyestani, il nous a sorti une BD... la sixième, Les oiseaux de papier. Donc Manan Eyestani, c'est qui ? Il est né à Téhéran en 1973. Il a une formation d'architecte. En 1990, il commence sa carrière de dessinateur en travaillant pour de nombreux magazines iraniens. Il devient illustrateur de presse à la faveur de la montée en puissance des journaux réformateurs en 1999. Catalogué ensuite dessinateur politique par les conservateurs, Mana est contraint de faire des illustrations pour enfants. C'est suite à la parution de l'une de ses illustrations en 2006 qu'il sera emprisonné et finira par fuir son pays, expérience qu'il décrit dans son livre « Une métamorphose iranienne ». De 2007 et 2010, il vit en exil en Malaisie et dessine pour des sites dissidents iraniens avant de rejoindre la France en 2011. Depuis l'élection frauduleuse de 2009, son travail est devenu un symbole de la défiance du peuple iranien. Il a remporté de nombreuses distinctions en Iran et à l'international, dont le prix du courage 2010 du CRNI, Cartoonist Rights Network International. Il est également membre de l'association Cartooning for Peace et a reçu le prix international du dessin de presse en 2012. Mana Neyestani est réfugié politique en France depuis 2012 et vit à Paris avec son épouse. Donc, je vous ai déjà parlé d'une métamorphose iranienne sortie en 2012. Tout va bien. Ça, c'est des caricatures humoristiques, mais sur l'effet politique, entre guillemets. C'est l'humour et noir.
C'est l'humour et noir, ouais.
Petit manuel du parfait réfugié politique avec sa petite carte de séjour à l'intérieur. Tout son parcours, justement, d'exilé. Et toutes les démarches à faire à la préfecture. L'araignée de Machad et 3 heures. Donc là, c'est un voyage qu'il a fait pour aller en Belgique. Et il a eu encore des problèmes à l'aéroport. Oh, alors qu'il avait ses papiers.
C'est bizarre, hein, quand même.
Et là, il nous sort les oiseaux de papier. Les oiseaux de papier, ça te parle de quoi? Et pas du tout de son parcours. Je vais encore lire, j'adore lire ce soir. C'est pour ça que j'ai dit que ça prendrait du temps ce soir. Ça va nous parler des colbars. Cela fait des années que j'apprends régulièrement, par la presse persanophone, la mort de dizaines de colbars, des porteurs kurdes, iraniens, et que j'en découvre les images. En raison de leur extrême pauvreté, des hommes et parfois des femmes sont contraints de porter sur leur dos de lourdes charges de marchandises, généralement interdites en Iran, et de traverser la frontière entre l'Iran et l'Irak par des chemins impraticables en voiture pour les remettre à des marchands, des grossistes, voire des trafiquants pour le marché iranien. Toutes les 2 ou 3 semaines, l'un d'entre eux est victime d'une catastrophe naturelle ou d'une balle tirée par les gardes-frontières. Cette situation dure depuis des décennies sans le moindre changement. Je ne vous lis pas tout, parce
non,
que c'est long.
Parce que tu as encore d'autres trucs après.
Oui, mais n'hésitez pas. Juste pour vous dire, là, je suis en train de vous montrer...
Il est beau, le livre. Moi, j'ai regardé, là, j'ai feuilleté, ça
mais
donne
c'est
envie.
C'est le coup de crayon de Mana Neyestani.
Ça donne envie, ouais.
C'est normal.
Ben oui.
Mais vous pourrez lire la suite sur Internet ou en empruntant. Là, celui-là, il vient de Netreville. Couleur verte.
J'ai rien dit.
Donc, c'est bien, en plus, si vous faites votre carte dans les réseaux des médiathèques, c'est gratuit pour les habitants d'Evreux. Et vous avez des bons livres à lire, hein.
Juste mais pour oui, madame Minaf, bibliothécaire.
Voilà. Juste pour vous dire, voilà encore une expérience de vie. Pourquoi les gens viennent en France? Mais qu'est-ce que se passe? C'est pas si beau chez eux. Alors on continue. Je continue vite, Claire Lise.
Parle bien dans le micro, par contre. Minaf.
C'est ce que j'ai fait. Regarde, je me grandis et tout ça. Alors, la suite. 5 épisodes de 50 minutes sur Arte, dessinés pour résister. C'est la dissidence au bout du crayon. Et justement, hier, j'ai vu l'épisode de Amani Al-Ali. Elle habite à Idlib, et en Iran. Non, au Liban, en Iran. Oh, je ne sais plus.
Vas-y.
Tu m'as stressée. Elle m'a stressée. Alors, je ne sais plus ce que je dis.
J'ai rien fait.
Bon, en gros, c'est des dessinatrices féministes. Et on voit 5 portraits. Donc là, les épisodes sont jusqu'au 14 juin. On voit toute la souffrance. Voilà. Elles dessinent ce qui se passe et elles dénoncent. Elles font des caricatures. On appelle ça des caricaturistes. Voilà, à voir si vous avez le temps, ça dure 50 minutes.
Et on peut les revoir sur Arte? C'est rediffusé?
Là, j'ai essayé hier, j'ai fait arte.fr, j'ai vu qu'il restait 3 épisodes.
Ouais, j'ai mais pas... est-ce que tu crois que ça va être... C'est... Des fois, c'est rediffusé
peut-être.
Une deuxième fois?
En tout cas, c'est soutenu
la
par,
nuit.
peut-être, Cartoon for Peace.
D'accord.
Moi, je suis allée sur Internet, je me suis embêtée. Hein.
Ouais.
Oh, voilà. Et après, du coup, je n'aurai pas le temps. Alors, si vous pouvez aller dans la chronique, il y a un super où Clarisse vous en parlera à la prochaine émission. Deux films qui sont sortis, Mon pire ennemi de Mehran Tamadon et Là où Dieu n'est pas de Mehran Tamadon. Il parle de torture, la position tortionnaire torsionnée. Et voilà, au revoir.
On rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France et on ne vous vous conseiller, comme on le fait très souvent, de vous abonner. Ce n'est pas distribué dans les kiosques, mais c'est sur abonnement. De vous abonner, et vous avez le formulaire d'abonnement sur le site amnesty.fr. N'hésitez pas.
Et on remercie beaucoup Mina pour sa chronique littéraire et culturelle. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Mais il faudrait faire une émission spéciale culturelle d'une heure avec Mina régulièrement parce qu'il y avait beaucoup de choses.
Pensez bien pourquoi les gens sont en France ou pourquoi les gens partent dans un autre pays. Parce que ce n'est pas qu'en France, en Italie ou autre part. Il y a des raisons.
Oui. On en parle aussi régulièrement dans nos émissions. Voilà. Je crois qu'on va justement quitter la France pour aller
en Guinée.
En Guinée,
j'avais envie de vous parler un peu de la Guinée parce qu'on n'en parle pas très souvent. Et en Guinée, il y a une jeunesse qui est en quête de justice et de soins. Donc depuis 2019, les autorités guinéennes n'ont cessé de violer les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression en exerçant une répression brutale qui a fait plus d'une centaine de morts et des centaines de blessés graves, dont des enfants. Et la Guinée, on n'en parle pas souvent à la télévision française, on n'en parle pas souvent non plus dans nos émissions. Et donc j'avais envie ce soir d'avoir un petit moment pour vous en parler. Dans notre nouveau rapport, nous exposons les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes Guinéens et Guinéennes pour obtenir justice et pour accéder à des soins de santé. L'impunité doit cesser. En 4 ans, au moins 113 personnes ont été tuées et des centaines gravement blessées lors de manifestations par des individus identifiés comme étant des membres des forces de défense et de sécurité. Notre nouveau rapport intitulé « Une jeunesse meurtrie, urgence de soins et de justice pour les victimes d'usage illégal de la force en Guinée » met en évidence les obstacles persistants aux soins de santé et à la justice rencontrés par les victimes d'usage illégal de la force par les forces de défense et de sécurité dans le contexte des manifestations contre la modification de la Constitution sous la présidence d'Alpha Condé et depuis l'arrivée au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le Développement, le CRDN, en septembre 2021. Malgré les promesses du CRDN de s'attaquer à la problématique de l'usage excessif de la force sous Alpha Condé, y compris dans les cas d'homicides illégaux, cette situation extrêmement grave persiste dans un contexte général de répression des voix dissidentes, a déclaré Samira Daoud, notre directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. La honte doit changer de camp face aux violences sexuelles en Guinée. Donc, parmi les personnes tuées, ces 4 dernières années, 47 l'ont été après l'arrivée du CRDN au pouvoir en 2021. Selon nos données, plus de 75% avaient moins de 25 ans et 40% étaient des mineurs de moins de 18 ans. Une grande proportion des personnes blessées, interrogées, sont également des enfants et des jeunes. Parmi eux, Elijah Bailo Diallo, 20 ans aujourd'hui et 16 ans au moment des faits, qui a été touché par une cartouche de gaz lacrymogène tirée par des personnes qu'il a identifiées comme étant des membres des forces de défense et de sécurité. Et il a perdu la vue de son œil droit. Je jouais au foot avec mes amis dans le quartier. À chaque fois qu'il y a des manifestations, les forces de défense et de sécurité font toujours des descentes musclées dans notre quartier. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont tiré des gaz lacrymogènes. Et l'un m'a atteint au visage, au niveau de l'œil droit. Je suis tombée. Le visage ensanglanté et je ne voyais plus rien. Depuis cette blessure, j'ai dû arrêter l'école. Et par manque de moyens, j'ai dû arrêter les soins. Donc ça, c'est le jeune Elijah Bailo Diallo qui parlait de ça. Tiernou Madiou Diallo, également âgé de 16 ans au moment des faits, a été blessé par balle et a dû subir une amputation de la jambe. La plus jeune parmi les blessés était une fillette de 9 ans, touchée à son domicile par une balle perdue. Tout le monde était en train de fuir. Moi, je me suis retrouvée par terre et c'est là que j'ai su que j'avais reçu une balle au niveau du pied. Il y a eu des retards dans la prise en charge, ce qui a causé des infections et a conduit à l'amputation de ma jambe. Tous mes rêves sont brisés. Le traumatisme psychologique de ceux qui ont été blessés a obligé bon nombre d'entre eux à abandonner l'école et les a rendus inaptes au travail, comme Souleymane Diallo, qui a été blessé par balle en 2024. Le rapport d'Amnesty démontre que les victimes de blessures graves infligées par les forces de défense et de sécurité lors des manifestations ont reçu des soins médicaux tardifs, après que ces dernières ont empêché ou retardé l'évacuation médicale en violation du droit guinéen et du droit international. Selon les témoignages que nous avons recueillis, les forces de l'ordre ont délibérément laissé sur place des victimes gravement blessées au lieu de leur porter assistance. Des victimes ont également été arrêtées et détenues sans soins médicaux, parfois pendant plusieurs jours. Mamadou Diallo Baldé a été gravement blessé lors d'une manifestation après avoir été heurté par un véhicule conduit par des personnes qu'il a identifiées comme étant des membres des forces de sécurité et de défense. Après m'avoir heurté, ils sont descendus du véhicule, ils m'ont donné deux coups de pied, puis ils sont remontés dans le véhicule et ils sont partis, raconte Mamadou. Selon plusieurs témoignages, certains membres du personnel médical des centres de santé publics et privés ont refusé de traiter les personnes blessées par crainte de représailles des autorités qui ont constamment cherché à minimiser la répression. Enfin, alors que les autorités devaient garantir le principe de l'accessibilité afin de protéger le droit à la santé, et en l'absence de toute indemnisation pour les personnes blessées, de nombreuses personnes issues de milieux modestes n'avaient pas les moyens de se payer les soins de santé adéquats, avec des conséquences souvent dramatiques. Parmi elles, Alpha Oumar Diallo, devenu paraplégique après avoir été blessé par balle lors d'une manifestation en 2019 et qui est décédé en septembre 2023, n'ayant pas pu avoir des soins adéquats. Donc c'est le règne de l'impunité depuis 2019. Il y a eu peu de condamnations de membres de forces de défense et de sécurité pour usage illégal de la force. Plusieurs procédures judiciaires ont été annoncées ou effectivement engagées par le CNRD, mais peu d'informations publiques sont disponibles sur leur évolution. Elles concernent principalement des cas d'homicides illégaux. Ceux qui ont survécu sont généralement privés d'accès à la justice et privés d'accès à la réparation. Les blessés et les familles des victimes ont très majoritairement renoncer à dénoncer des plaintes en raison de leur manque de confiance dans le système judiciaire et de la crainte de représailles et du manque de moyens financiers. À ce jour, les rassemblements sont toujours illégalement interdits. Les forces de défense et de sécurité continuent d'être déployées avec des armes létales et des morts et des blessés résultant d'usage illégal de la force continuent d'être recensés par des organisations de la société civile et les médias. La Guinée a été condamnée par la Cour de justice et par le CDEAO. Donc, dans un arrêté rendu le 31 octobre 2023, la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc le CDEAO, a jugé que l'État guinéen a violé le droit des requérants à l'information et à la liberté d'expression. La Cour a également enjoint à la Guinée de prendre toutes les mesures pour garantir que cette situation ne se reproduira pas à l'avenir et d'adopter et de mettre en œuvre des lois, règlements et garanties afin de s'acquitter de ses obligations en matière de droit à la liberté d'expression en vertu des droits internationaux et des droits de l'homme. La Blogui, l'association villageoise, la Ligue guinéenne des droits de l'homme et le Centre africain de formation et d'information sur les droits humains et l'environnement avaient déposé une requête contre l'État de Guinée devant la Cour le 22 juillet 2021 pour dénoncer les restrictions d'accès à Internet et ou à des réseaux sociaux à plusieurs reprises entre mars et décembre 2020. Donc les demandes d'Amnesty, pour résumer, c'est garantir les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique par les autorités guinéennes, respecter strictement les principes du droit international sur l'usage de la force et des armes à feu par les forces de l'ordre, veiller à ce que toute personne blessée lors de manifestations soit prise en charge rapidement par les services médicaux sans condition de paiement des frais médicaux à l'avance. Voilà. Juste dire quand même que quand on parle de faire valoir les droits des personnes qui ont été blessées par la police ou par les forces de l'ordre, ça nous fait rappeler quand même des petits trucs oui. De avant que les flammes ne s'éteignent et sur ce qui se passe aussi en France.
Oui.
Voilà.
Et juste avant qu'on passe à la deuxième pause musicale, merci Claire-Lise, ça m'a fait penser aussi à justement un dossier qui est paru aussi dans la dernière chronique, donc le mensuel de l'Amnesty France, sur les armes non létales, donc les armes qui ne sont, entre guillemets, qui ne sont pas destinées à tuer, mais à faire respecter l'ordre avec beaucoup de guillemets lors des manifestations, et effectivement, et des conséquences des mauvaises utilisations et des ventes faites par la France de ces armes-là. C'est un dossier très conséquent, donc c'est très long, mais prenez le temps de le lire, et c'est paru dans la dernière chronique d'Amnesty International. Ça s'appelle « Le scandale des armes non létales ». Voilà, on passe à la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Curiously
retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la dernière partie de son émission consacrée à la promotion et la défense des droits humains. Et le morceau qu'on vient d'écouter, ben, c'est moi qui l'ai choisi. Donc pour faire un bref historique, à la dernière émission, il y avait Claire Lys qui avait choisi un morceau qu'elle avait entendu à l'émission de l'ami qui nous suit, qui s'appelle Le Laboratoire, qui est juste après nous sur l'antenne de Principe Actif. Et la personne, la chanteuse, s'appelle Adrienne Lenker. Elle avait trouvé le morceau très joli, donc elle l'avait proposé. Et en préparant l'émission, j'ai découvert que cette Adrienne Lenker est également la chanteuse d'un groupe qui s'appelle Big Thief. Et c'est un morceau de ce groupe que je vous ai passé. Et le morceau s'appelle Red, je ne l'ai plus sous les yeux, il s'appelle Red Moon. Voilà. Toute l'histoire. Donc on fait en ce moment des illustrations musicales grâce à notre ami du laboratoire. Voilà. Donc pour terminer l'émission et avant les infos locales qui ne vont pas tarder parce que la pendule tourne, donc je voulais vous dire quelques mots de l'actualité qui concerne, on vous en avait parlé, Clarisse vous en a parlé il n'y a pas si longtemps, au mois d'avril, Amnesty International France a déposé avec d'autres ONG, a déposé une plainte auprès du tribunal administratif visant à ce que l'État français suspende ses ventes d'armes qu'il fait à Israël dans le cadre et qui servent très probablement dans le cadre du conflit entre Israël et Gaza, et que donc pour Amnesty International c'est tout à fait anormal et tout à fait inadmissible que l'État français continue à fournir des armes qui servent à tuer des civils et des enfants. Donc voilà. Et donc le jugement a été rendu donc sur cette plainte qui a été déposée au mois d'avril, le 13 avril. Et malheureusement, la réponse du tribunal administratif est négative. Et voilà ce que dit Amnesty. Je vais vous lire juste un petit extrait du communiqué. En matière de vente d'armes, le mur de l'opacité érigé par le gouvernement n'est pas encore tombé. Entre le 13 avril et le 6 mai dernier, le tribunal administratif de Paris a rejeté successivement 3 requêtes d'ONG visant à la suspension des exportations d'armement vers Israël en raison du risque de leur utilisation contre les civils à Gaza. Cette démarche inédite en France a été initiée le 8 avril par une dizaine d'organisations, dont Amnesty International, Action Sécurité Éthique Républicaine et un collectif représenté par ATTAC. Motif invoqué par le tribunal administratif pour balayer ses recours, les licences d'exportation ne seraient pas des actes administratifs, mais des décisions politiques liées à une conduite des relations internationales de la France. La première requête visait l'ensemble des autorisations délivrées en 2022 pour la livraison de bombes et missiles, de matériel de guerre et de biens à double usage. La deuxième pointait 21 licences d'exportation accordées la même année pour du matériel facilitant le tir et pour de l'imagerie. La dernière cite l'exportation d'équipements pour des mitrailleuses. Les exportations d'armes entre la France et Israël peuvent donc se poursuivre, contrairement à ce qui a été décidé en Espagne, en Belgique, au Canada ou aux Pays-Bas, où les licences ont été suspendues en raison du risque que soient commis des graves crimes contre les civils. Dans ses décisions, le juge reprend mot à mot les arguments du ministère des Armées pour rejeter la demande des associations. Dans une note du 13 avril, la directrice des affaires juridiques du ministère, Laurence Marion, assure en effet qu'il s'agit là d'un acte de gouvernement à ne pas remettre en question, et la juriste de mettre en garde le tribunal contre toute velléité d'ouvrir un débat qui serait susceptible de peser sur les équilibres géostratégiques régionaux et internationaux. Alors moi, ça m'inspire deux réflexions, effectivement. Les ventes d'armes sont un acte politique, et effectivement, faut minimiser leurs conséquences en termes d'atteinte aux droits humains. Et qu'est-ce qu'on fait quand une personne qui s'exprime comme là du ministère, qu'est-ce qu'elle fait de la vie des civils et des enfants à Gaza et ailleurs? Visiblement, ce n'est pas sa préoccupation. Voilà. Et donc, alors, juste pour conclure, dans un communiqué, Amnesty précise par la voix de son spécialiste sur les ventes d'armes qui s'appelle Ébric Éluin, voilà ce qu'il dit. C'est un affront colossal à la démocratie et une manière d'organiser l'irresponsabilité sur des ventes d'armes, car les industriels renvoient la balle à l'État qui accorde les autorisations. La justice se déclare incompétente et, in fine, l'État n'a jamais besoin de se justifier. Voilà. On va dire aussi, enfin, pour conclure, on peut dire aussi que ce genre de décision où le politique décide à la place du judiciaire. C'est contraire au droit de la démocratie et c'est un parfait abus de pouvoir.
Merci voilà. Didier.
Donc,
allez, du local.
Du local, effectivement, on voulait faire un appel à l'action, mais on n'aura pas le temps, ça fait non. Rien. On vous le fera la prochaine fois. Mais il faut faire de temps
en temps. Et si on veut voir les actions, on va sur le site, quel site ?
C'est sur le site amnesty.fr. D'accord. Il y a des pétitions à signer et d'autres choses à faire. Entre autres, il y a toujours la pétition, je vous ai parlé tout à l'heure de Julian Assange. Il y a la pétition pour Gaza, pour les ventes d'armes, effectivement, qui y est toujours.
Et le cessez-le-feu,
pardon, pas sur les ventes d'armes, non, je me trompe. Et la pétition pour la libération de Julian Assange, qui est toujours aussi sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Et pour nous contacter ici, le groupe d'Evreux, c'est evreux@amnestyfrance.fr. Et donc, dans les actualités locales...
Allez, les réjouissances.
Alors, je les ai notées, je ressors ma petite feuille, en vous le lisant dans l'ordre, je vais essayer. Donc, on a un mois de juin très, très, très occupé au niveau militant. Donc, on sera déjà le 8 et le 9 juin. Un festival que tous les auditeurs, je pense, de la radio connaissent, un festival rock qui s'appelle Ça sonne à la porte, juste à côté d'Evreux, à Grosseuvre. Donc samedi 8 et dimanche 9, on y tient un stand d'information. Vous pouvez venir nous voir, vous renseigner et aussi signer des pétitions et des actions. Voilà. Donc ça,
et le
ça
9, n'oubliez pas non plus de ne vous trompez pas et n'oubliez pas d'aller voter pour les droits humains par rapport aux élections européennes.
Tout
vas-y, continue.
À fait. Tout, bien,
mais
bien.
C'est local aussi.
T'as bien fait de rappeler ça. Et surtout,
c'est,
et surtout
oui, c'est très localisé.
Ne vous trompez pas dans le sens de votre vote. Ne votez pas pour des partis qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Voilà. Deuxième actualité locale, on est partenaire du Temps Grave. Le premier partenariat, c'est le vendredi 14 juin à 20h au Cube sur un spectacle de cabaret qui s'appelle Tout n'est pas rose dans la machine. Non, c'est pas ça, qui s'appelle Pink Machine, pardon. Et le commentaire fait par le Temps Grave, c'est Tout n'est pas rose dans la machine à laver les stéréotypes. Alors ça se passe. Ces spectacles-là dans le cadre de la quinzaine arc-en-ciel sur les droits des minorités sexuelles, les droits des LGBT. Et donc, c'est un cabaret qui parle, en fait, de cette thématique-là, mais sous un aspect un peu ludique. Voilà. Donc, ça s'appelle Pink Machine. C'est le 14 juin, 20h au Cube. Et le lendemain, on est également partenaire, le samedi 15, on est partenaire d'un autre spectacle toujours dans la quinzaine sur les droits des LGBT. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle « Comment avouer son amour quand on ne sait pas les mots pour le dire ». Alors je trouve que c'est un titre qui laisse à penser. Je ne vous en dirai pas plus, effectivement.
C'est sûr, c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr.
Donc 14 et 15 juin, vendredi 14 et samedi 15, on est partenaire du Tangram. Après, on a le 20 juin. Le jeudi 20 juin, une émission Fréquence Droits Humains, une nouvelle émission du cycle Fréquence Droits Humains, à 18h en direct sur l'antenne de Principe Actif, qui est consacrée au mois des réfugiés et des migrants, effectivement. Donc voilà, la Journée nationale des réfugiés et des migrants, donc le 20 juin, sur l'antenne de Principe Actif, à 18h. Et enfin, notre dernière actualité, mais pas la moindre, et on nous en reparlera dans les prochaines émissions du mois de juin, on organise notre foire olive annuelle, le dimanche 30 juin, sur l'espace Saint-Léger, à Évreux, comme on le fait tous les ans. Voilà, donc il faut venir effectivement nous voir. Il y a des milliers de livres à vendre.
On déstocke.
À vendre à un prix tout à fait imbattable. Et de quoi vous procurer des lectures pour vos vacances d'été et pour après. Donc le dimanche 30 juin, foire aux livres de 9h à 17h sur le parking de l'espace Saint-Léger à Évreux. Voilà, on va laisser l'antenne au laboratoire. On se retrouve aussi sur l'antenne de Principe Actif pour notre prochaine émission Amnesty. C'est le mardi 11 juin à 19h en direct sur l'antenne de la radio, bien sûr. On vous rappelle aussi qu'on a des dizaines de podcasts en ligne si vous voulez nous réécouter, des dizaines de podcasts en ligne sur le site de la radio. principeactif.net, principeactif.net, à la rubrique Amnesty International et aussi les podcasts des émissions Fréquence Droits Humains.
Ciao, ciao, ciao.
On laisse l'antenne au laboratoire, on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
« Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.